Voilà, nous allons prendre notre Bible et l'ouvrir dans le livre d'Esther. On s'est proposé une étude, un survol du livre d'Esther, magnifique livre. On a commencé dimanche dernier. C'est une histoire passionnante et c'est une histoire vraie. Et cette histoire, elle a eu lieu à Suse. Suse, c'est la capitale de l'Empire perse, l'une des capitales de l'Empire perse, l'une des quatre capitales. Et c'est aussi la résidence d'hiver pour le roi Assuérus. Le peuple d'Israël a été emmené en captivité vers 600 avant Jésus-Christ. Et ils sont partis à Babylone. Captivité à Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar. Dieu voulait les mettre à l'écart, les envoyer au désert à cause de leurs péchés et les amener à réfléchir pendant 70 ans. Après le royaume babylonien, il y a eu l'émergence d'un nouveau royaume, celui des Perses. Et ce sont ces Perses qui ont gagné cette région. Alors que le peuple était encore esclave là-bas. Et donc c'est du temps du roi Assuérus, c'est son nom hébreu, ou Xerxès, le nom grec, qu'a lieu cette histoire d'Esther. Assuérus règne depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Sur 127 provinces. Et donc l'histoire se déroule dans les années 483-473 avant Jésus-Christ. Une partie du peuple est déjà rentrée à Jérusalem. D'autres vivent plus ou moins assimilés à Suse. Et c'est un livre typique, le livre d'Esther, puisque le nom de Dieu n'y apparaît pas une seule fois. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de le voir derrière chaque événement. J'ai lu un commentaire où il s'interroge sur « Mais est-ce que c'est Esther ou est-ce que c'est Mardoché qui est le personnage principal de l'histoire ?» C'est Dieu le personnage principal. Mais c'est vrai, Dieu n'apparaît jamais. Il n'est pas mentionné une prière, il n'est même pas mentionné la loi de Moïse, il est rien. Et c'est un peu comme nos vies, je pensais. Parfois on s'interroge, quel est le personnage principal de notre vie? Et on aimerait bien dire, c'est quand même moi, c'est ma vie. Non. Le personnage principal, c'est celui qu'on ne voit pas, et c'est Dieu lui-même. On a l'impression d'assister à une partie d'échec entre Dieu et Satan, tous les deux invisibles, mais qui déplacent d'authentiques rois, d'authentiques reines, d'authentiques nobles sur l'échiquier du monde. Dans le chapitre 1, on a vu que la reine Vasti épouse du roi Assuérus tombe en disgrâce pour s'être opposé à l'ordre insensé et vaniteux du roi. Il voulait la faire paraître devant toute sa cour avec sa couronne et voilà, ils étaient tous pas mal éméchés et voilà, il voulait, et elle a refusé. Au chapitre 2, on a vu qu'une jeune fille juive, orpheline, Esther, belle de taille et belle de figure. Elle a les deux, hein. Parfois on n'en a qu'un. Elle a les deux. Et à cause de ça, elle est sélectionnée pour l'élection de Miss Perse. Et c'est de cette élection dont nous a parlé le pasteur Samuel dimanche dernier. Elle trouve grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient et finalement aux yeux du roi lui-même. Et elle remporte la couronne. Mais jusqu'à ce moment-là, elle n'a pas fait connaître son origine juive. Parallèlement à cet épisode, on apprend que Mardochée, son cousin, qui l'avait recueilli, qui est aussi son tuteur, a déjoué un complot visant à assassiner le roi. Le roi en a été informé, il a fait pendre les deux conspirateurs et il a fait consigner dans les chroniques du roi cet épisode. Dans le chapitre 3, c'est à Satan de jouer. Et Satan, il décide de jouer le fou. Il avance le fou, c'est Aman le fou. Aman l'Agagite. Aman l'Agagite, c'est un homme qui est d'un orgueil terrible. Il ne supporte pas l'offense qui lui est faite par Mardochée, le Benjamite, qui refuse de s'incliner devant lui. Aman, il a été promu deuxième personnage de tout le royaume à l'époque. Il est, il a pris la grosse tête, quoi. Et tout le monde s'incline devant lui. Il y a eu un ordre. Peut-être que les gens ne voulaient pas le faire naturellement. Vous savez, l'autorité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut commander. On reconnaît l'autorité d'une personne naturellement, normalement. Mais celle d'Aman, on ne la reconnaît pas. Alors, il a fallu faire un édit. Voilà, tout le monde doit se prosterner devant Aman. Et Mardochée, lui, dit non. Moi, non. Alors, chaque fois que Aman passe quelque part, tout le monde se prosterne. Il y en a un qui est debout. C'est Mardochée. Et ça commence à l'irriter au possible. Du coup, on commence à l'interroger, mais pourquoi tu ne veux pas te prosterner? Et puis, il fait connaître, il dit, moi, je ne me prosterne pas, et alors je ne me prosternerai jamais parce que je suis juif. Ah! Et que je me prosterne devant Dieu seul. Du coup, Aman, il se débrouille pour faire signer au roi un édit ordonnant le massacre, l'extermination de tous les juifs. C'est là où on voit le côté diabolique du diable qui est derrière en train de jouer le fou. Parce que un homme, un seul homme, refuse de se prosterner devant lui et il ordonne l'extermination de tous les juifs. Et quand il dit tous les juifs, c'est tous les juifs. Regardez chapitre 3, verset 13. Les lettres furent envoyées par courrier dans toutes les provinces du roi, les 127, pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Ça, c'était la motivation terrible. Et le roi a signé, le roi Assuérus, il a signé ça, pas très brillant non plus le roi. Et au moment où le roi signe ça, Satan s'écrie « Échec ! Échec ! Il a mis Dieu en échec ! Eh oui ! Il a mis Dieu en échec parce que si tout le peuple juif est tué, alors, il n'y a pas de Messie, parce que le Messie doit venir du peuple juif. Et s'il n'y a pas de Messie, il n'y a pas de salut pour aucun homme sur la terre. Aucun de nous ne peut être sauvé. Et c'est pour ça que là, Satan est là, échec ! Il a mis Dieu en échec. Ça, c'était le résumé de l'épisode précédent. C'est une des crises les plus profondes que le peuple juif a connu de toute son histoire. C'est aussi une crise terrible pour Mardochée. Imaginez-vous le bonhomme qui y reçoit l'édit qui est distribué dans toute la ville de Suse, qui ordonne la destruction de tout le peuple. Tout son peuple. Et lui, il se dit, parce que je me suis entêté à ne pas me prosterner devant cet homme, je vais provoquer un génocide. Parce que moi, Mardoché, à cause de mon orgueil, je ne veux pas juste baisser les yeux et la tête devant Aman. Alors, il y a plusieurs millions de personnes, tous innocentes, qui vont périr. Imaginez la crise pour lui que ça représente. Et puis c'est aussi une crise pour Esther, une crise terrible, puisqu'elle, elle se trouve à la tête du royaume, mais du royaume qui va tuer son propre peuple. Et elle, elle est là dans cette crise, elle se dit, mais si je me tais, mon peuple va mourir. Et si je ne me tais pas, moi, je risque de mourir et mon peuple ne sera pas sauvé pour autant. Alors là, c'est quand même assez compliqué comme situation. C'est vraiment une crise. Et vous avez peut-être déjà connu ce genre de crise. Quand on connaît ce genre de crise, vous savez, la pensée que l'on a, c'est « je voudrais juste pas faire partie de l'histoire ». C'est-à-dire, vous êtes dedans et on vous dit « tu fais ça, tu meurs, tu fais ça, tu meurs ». Si je choisis cette option, c'est la catastrophe. Si je choisis cette option, c'est la catastrophe. Vous dites, mais je voudrais juste être ailleurs. Je voudrais sortir de cette crise. Je ne voudrais pas avoir à connaître une telle crise. Vous avez l'impression que le rôle que vous devez jouer est terrible et l'alternative qu'on vous propose est tout aussi terrible. Et donc, la question que j'aimerais poser ce matin, mais c'est que faire en temps de crise? Et je vous propose de voir une première chose, c'est de revenir à Dieu. Et là, on va commencer notre étude au chapitre 4, si vous voulez bien, verset 1. Revenez à Dieu. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et il se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Elle lui envoie des vêtements parce qu'elle a juste appris que là, il est là, couvert d'un sac à la porte, et ça, c'est interdit. Et donc, elle veut régler ce problème-là, mais elle ne connaît pas le fond du problème. Alors Esther appela Attac, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Attac se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi au retour du massacre des Juifs. Et lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et qu'il lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Voilà la chose. Mardoché, voilà la chose. Et lui, il est en crise. Alors il déchire ses vêtements. Il prend le sac, la cendre, et il pousse des cris amers dans toute la ville. Imaginez son désespoir. Et il informe la reine de tout cela. Et il dit, écoute maintenant, c'est à toi de jouer. Et donc la pression maintenant, elle est sur elle. Aux échecs, le but, c'est de prendre le roi adverse. Et donc, on veille constamment à la garde du roi. Eh bien, du temps d'Assuérus, c'est pareil. Les rois ont tellement peur des complots contre leur personne qu'ils vivent d'une façon très isolée, n'autorisant personne à s'approcher d'eux. Assuérus, d'ailleurs, malgré toutes les précautions qu'il aura prises pendant sa vie, mourra assassiné par le capitaine de ses gardes. J'ai vu que sur Wikipédia, le capitaine de ses gardes s'appelle Artaban. Pas de quoi être fier, comme Artaban. En fait, je ne crois pas que l'expression vienne de là. Hein. Mais c'est pourquoi il y a une loi qu'on voit au chapitre 4, verset 11. Et c'est Esther qui rappelle la loi à Mardoché par l'intermédiaire d'Attac. Verset 11, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Vous voyez la chose, elle est l'épouse, mais elle ne voit pas beaucoup son mari. Et ici, simplement si vous mettez les pieds dans la cour du roi, vous n'êtes pas encore entré dans la maison, déjà vous êtes mort. Sauf si le roi vous tend le sceptre. C'est intéressant que au verset 3, la description qui est faite du peuple, l'attitude du peuple, il est dit, le peuple, tous les juifs jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et cette expression, ce verset, est probablement tiré du livre de Joël au chapitre 2 et au verset 12, où il est écrit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. » Et il semble que l'auteur d'Esther, du livre d'Esther, emploie des paroles du livre de Joël, écrit 350 ans plus tôt, dans des circonstances un peu similaires. C'est comme s'il y voit une correspondance. Et devant la menace du jugement imminent, le Seigneur commande à son peuple, par la bouche du prophète Joël, alors je vous invite peut-être à lire ces deux versets, en Joël chapitre 2, versets 12 et à 14, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des pleurs, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qu'il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. » En Esther, devant la menace du jugement inique de Haman, le peuple d'Israël en exil à cause de son péché est invité à revenir à l'Éternel. Et quand Joël dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements », c'est comme pour alerter Mardoché. « Mardoché, tu dis déchire tes vêtements, mais ce n'est pas cela que je te demande. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Il y a un ordre de revenir à Jérusalem. Pour tous les juifs, c'est le grand-père du roi qui a décidé ça, déjà depuis des années. Il y en a beaucoup qui sont déjà rentrés. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore à Suse? Lui, il avait été déporté, il a passé les 70 ans. Et il aurait dû revenir. Et il ne l'a toujours pas fait. Et puis, il dit à personne qu'il est juif. Il dit à sa cousine Esther, ne lui dis rien. Déchire ton cœur et non tes vêtements. Et il semble en effet que le peuple réponde à l'appel de Dieu à revenir à lui avec des larmes, avec des cœurs déchirés à cause de leurs fautes. Joël dit, revenez à l'Éternel votre Dieu car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie, et au verset 14, qui sait? Et qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et là, il semble que Mardoché a bien saisi le message. pour son temps. Et quand il va voir Esther et qu'il lui demande de se rendre vers le roi, il dit au chapitre 4 et verset 14, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Il emploie la même expression, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci ?» Qui sait si Dieu n'a pas l'intention de nous délivrer par ta main, par toi ? Et Joël poursuit au chapitre 2, toujours et versets 15 et 16, par un appel aux jeunes, verset 15. Il dit, « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. » Voilà, tout le monde. Et qu'est-ce que fait Esther ? Elle fait la même chose. Elle proclame un jeûne. Et elle va dire à Mardochée, verset 16, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez avec moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, et même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Je trouve ça merveilleux. Ils ont pris les paroles de Joël au sérieux et ils les ont appliquées à leur vie. Revenez à moi avec vos cœurs déchirés et qui sait ? Et puis encore, cherchez-moi. La Bible dit dans Romains chapitre 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donne l'Écriture, nous possédions l'espérance. » Que faire en temps de crise ? Revenez à Dieu. Peut-être quelqu'un dira, mais moi, je n'ai pas l'impression d'être parti loin de Dieu. C'est vrai. Peut-être c'est vrai. Mais revenez quand même à Dieu. C'est-à-dire, la souffrance devrait toujours produire ça dans notre vie. L'épreuve, les crises de toutes sortes devraient toujours produire cette chose-là dans nos cœurs. Premièrement, quand je traverse une crise, je m'approche de Dieu. Je reviens à Dieu de tout mon cœur. Et puis, je fais le point avec lui. Parce que dès l'instant où je m'approche de Dieu, je suis confronté à cette situation, à mon propre cœur. Et là, je vois qu'il y a nécessairement des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses dont je peux me repentir. Il y a des choses qui avaient envahi mon cœur. Et maintenant, je voudrais que Dieu prenne toute la place. Revenez à Dieu. Et puis la deuxième chose qu'on verra, c'est agissez en croyant. C'est-à-dire, agissez en tant que croyant, comme un croyant. Jusqu'à présent, on n'avait pas spécialement vu d'attitude spirituelle chez aucun des protagonistes. Bien sûr, rien chez Aman et Assuérus. Mais chez Mardochée et Esther, ce n'est pas terrible non plus. Il semble que ce jeûne et ce temps d'humiliation a réveillé en Mardochée un caractère de croyant dans la puissance souveraine de Dieu. Il dit, écoute Esther, va voir le roi, parce que si tu ne vas pas voir le roi, sache une chose, le secours nous viendra quand même, parce que Dieu a promis qu'il préserverait son peuple. Lui, il est confiant. Il a regardé vraiment au-dessus de la situation, il a vu Dieu, il dit, ok, il y a des problèmes partout, mais Dieu est avec nous, et Dieu va rester avec nous. On a l'impression qu'il a découvert qu'il y a un chef d'orchestre au-dessus de tout ça. Il y a comme un Kasparov au-dessus de l'échiquier mondial qui est en train de remporter la victoire. Jusque-là, Esther ne s'était pas fait connaître comme juive. Même son mari ignorait son origine. Maintenant, si elle veut sauver son peuple, elle doit s'identifier à son peuple. Et c'est là la grande crise pour elle. Ça signifie qu'elle doit reconnaître qu'elle n'a pas vécu comme une juive pieuse aurait dû vivre jusqu'à présent. Elle doit décider ce qu'elle est vraiment. Quelqu'un a noté que c'est la seule personne dans le livre qui porte deux noms. Hein, au chapitre 2, verset 7, on sait qu'elle s'appelle Hadassa. Hadassa, c'est son nom hébreu, et ça signifie myrte. Et la myrte, c'est une plante qui est utilisée comme condiment à cause de son amertume. Et donc, elle exprime la tristesse, la pénitence, le regret. Et elle s'appelle comme ça. Tristesse, amertume, regret, voilà. Ça, c'est Hadassa. Et en fait, c'est vrai, elle est née en captivité, elle a perdu ses deux parents. Jusqu'à présent, elle a passé... elle a un passé assez chargé, assez difficile. Puis elle s'appelle aussi Esther. Alors Esther, c'est son nom perse, ça signifie étoile. C'est comme s'il y a le nom de scène, Esther, étoile, star. Et puis il y a le vrai nom, tristesse, misère. On a parfois, nous aussi, deux noms. Deux noms, deux visages. On a celui qu'on a dans la famille. Ça, c'est notre vrai nom. Ceux qui nous connaissent, ceux qui nous voient au quotidien. Et puis, il y a celui que l'on porte au lycée ou au travail, ou même à l'église. Elle n'a rien fait pour se trouver dans cette situation. Finalement, elle est née juive, elle est orpheline, elle est belle, elle est élue. Mais maintenant, il faut qu'elle décide qui elle est véritablement. Et ça, c'est une crise identitaire majeure chez Esther. Versets 13 et 14, Mardoché fit répondre à Esther: « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, et ta maison, et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. » Mardoché, il fait savoir à Esther, « Peut-être tu vas mourir en allant voir le roi, sans y être invité. » Peut-être. Mais si tu n'y vas pas, d'abord, sache une chose, le secours viendra d'ailleurs, parce que Dieu a promis de veiller sur son peuple. Mais en plus, toi et ta maison, c'est sûr, vous allez mourir. Et là, je me demande si Mardoché n'est pas en train de la menacer de mort, juste. Donc, sa seule chance de survivre, c'est d'aller vers le roi. Vu comme ça, elle prend la décision que nous aurions tous pris. De ce côté-là, il y a une chance que je sauve ma peau. Elle y va. Mais c'est plus que cela, je crois. Elle prend conscience de cette chance-là, de cette possibilité de sauver le peuple. Et donc, elle décide d'agir comme une croyante. Et ça, ça change tout. L'instant où elle décide de s'identifier au peuple de Dieu, déjà, juste dans sa tête, elle n'est plus passive. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle dicte même à Mardoché ce qu'il doit faire. On va prier, ou on va jeûner, hein, puisqu'il n'est même pas fait mention de prière, mais on peut espérer que dans le temps de jeûne, c'était un temps associé à la prière. Et puis elle prépare un plan pour sauver son peuple. Je crois vraiment qu'en temps de crise, nous avons aussi le choix de nous comporter en chrétien, en croyant, et de faire ce que nous devons faire. Et à cet instant, nous ne sommes plus dans le désespoir, mais nous trouvons du courage. Elle, Esther, se présente devant le roi. Elle confronte même Aman. En fait, sa décision de s'identifier à son peuple lui donne une raison d'être. Elle lui donne un but. Cette décision de dire « Ok, je vais vivre en croyante, je vais vivre pour Dieu. » Alors tout s'éclaire dans sa pensée. Elle sait, elle a un but, et puis ça stimule merveilleusement sa foi et puis son courage. L'Évangile nous confronte avec cette décision de vivre soit comme un païen ou de nous identifier au peuple de Dieu racheté, c'est-à-dire l'Église. Choisir Christ, ça donne un sens à notre vie et un but plus grand que nos problèmes. Ça donne même un sens à tout ce qui nous est arrivé. Et qui sait si ça n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as vécu tout cela? Et qui sait si Dieu n'a pas prévu d'utiliser toutes les choses par lesquelles tu es passé? Qui sait si Dieu n'a pas gardé son plan pour toi, dans tous les domaines de ta vie, ce que tu es vraiment? C'est lui qui t'a construit. Et qui sait s'il n'a pas choisi tout cela pour faire grâce au peuple? La nouvelle naissance, c'est un peu comme cette crise identitaire. C'est « je décide de quel côté je veux vivre ». Je décide si je veux vivre en croyant ou comme s'il n'y a pas de Dieu. Oh, bien sûr, il y aura quantité d'autres décisions à prendre. Le baptême en est une, mais il y en a tellement d'autres. Peut-être c'est me lever, d'aller vers ma femme ou mon mari et lui demander pardon. C'est cela à se comporter en chrétien, en croyant. Peut-être c'est se lever et aller me réconcilier avec mes parents ou avec mes enfants. Ou c'est me lever et m'identifier devant les miens comme un chrétien, quelles qu'en soient les conséquences. Quelles qu'en soient les conséquences. Au moment où elle prend cette décision, Esther, elle ne connaît absolument pas l'issue de sa démarche. Nous, on connaît la suite du livre. Mais à ce moment-là, elle ne connaît pas. Elle se souvient même que la reine précédente, elle a déclenché la fureur du roi et sa disgrâce à cause de son insoumission. Hein, la chose devait servir d'exemple pour qu'aucune autre femme du royaume ne puisse agir de la sorte envers son mari. Et là, Esther, elle s'apprête à être à nouveau insoumise. Il y a un ordre du roi lui-même, personne ne s'approche, et elle s'apprête à enfreindre cet ordre du roi, d'être insoumise. Là, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans sa tête. Elle se dit, mais mon mari, il en a déjà eu une insoumise. Il a voulu faire un exemple. Si maintenant, pour qui est-ce qu'il va passer? Le gars que toutes les femmes dirigent comme il... Ouais, c'est pas le genre du roi, normalement. Hein. Et là, Esther s'apprête à son tour à être insoumise. Elle ne connaît pas l'issue, mais elle fait ce qu'elle doit faire. Chapitre 4, verset 16, elle dit « Je vais jeûner avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. » C'est courageux, hein? Elle agit en chrétienne. Elle agit exactement en chrétienne. C'est-à-dire comme Christ, notre Sauveur, a lui-même agi. Elle s'expose, comme lui, au danger de mort pour sauver son peuple. Mais contrairement à Christ, elle fut merveilleusement délivrée, alors que Christ est mort en croix. Voilà. Que faire? Que faire en temps de crise? Revenez à Dieu et puis agissez en croyant. Et puis enfin, attendez-vous à Dieu. Regardez chapitre 5, versets 1 à 4. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther, debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, Esther ? Et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » C'est très intéressant. Ici, je trouve, c'est qu'il nous est dit, Esther mit ses vêtements royaux. À ce moment-là, elle sait qui elle est. Et elle est décidée à vivre en conformité avec ce qu'elle est. Elle est une jeune juive que Dieu a placée sur le trône de Perse au moment où le peuple juif connaît une menace d'extermination. Elle en a pris conscience. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se revêt de ses habits de reine. C'est-à-dire, elle comprend le plan de Dieu, là. Elle dit, oui, je suis une juive, une petite juive, orpheline, etc. Mais Dieu m'a placée là. Alors, je ne vais pas aller ailleurs. Je ne vais pas jouer comme si je n'étais pas cette reine. Je suis cette reine parce que, par la volonté de Dieu, et je veux vivre cela. Et utiliser ce que Dieu a fait de moi pour sa gloire, pour sauver son peuple. Je trouve ça merveilleux, magnifique. Et elle s'approche du roi, bravant l'interdiction, revêtue de toute l'autorité de reine. Et là, c'est dans ce sens-là que je voulais dire, attendez-vous à Dieu. À ce moment-là, la Bible dit, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit le sceptre d'or qu'elle toucha. Nous devons faire notre part et nous confier en Dieu pour le reste. Comprenant que seul un problème de la plus haute importance conduisait la reine à risquer sa propre vie, le roi lui demande, mais qu'as-tu, reine Esther ? Que demandes-tu ? Elle répond, viens avec Aman au festin que j'ai préparé. Sous-entendu, je te ferai ma demande autour d'un bon repas. Alors le roi fait venir Aman, ils viennent tous les deux au repas, petite coupe de champagne, deux ou trois, et puis là, il a bien mangé, et puis, rebelote, Esther, bon, tu ne m'as pas fait venir là pour juste manger, qu'as-tu ? Que demandes-tu ? Que désires-tu ? Et il redit, quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Ça, c'est une formule, hein, c'est une expression, c'est une manière de parler. C'est un peu comme lorsqu'on dit à nos invités, vous êtes ici chez vous. Vous n'avez pas en tête de les retrouver dans votre lit ou... Vous ne pensez pas qu'ils vont aller se servir dans le frigo ou passer leur coup de fil à l'étranger depuis votre téléphone. Non. C'est une manière de parler. Sentez-vous à l'aise, c'est ça que ça veut dire. Ici, je te donne la moitié de mon royaume, c'est... Écoute, je suis bien disposé à ton égard. Je vais essayer de faire tout mon possible pour répondre à ta demande. Marc 6, 23. La fille d'Hérodias... La maîtresse du roi Hérode danse devant le roi et devant les invités. C'est l'anniversaire du roi. Là encore, ils ont tous pas mal levé le coude. Et à ce moment-là, Hérode C'est étonnant, je trouve, la médiocrité des rois. Il dit, écoute, demande-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. La petite danseuse, elle a bien la tête sur les épaules, elle va voir sa mère, elle dit, qu'est-ce que je demande? Elle dit, t'as qu'à lui demander la tête de Jean-Baptiste, parce qu'il nous mène la vie dure, lui. Et elle revient, elle demande la tête, et Hérode fait décapiter Jean-Baptiste et apporter cette tête sur un plateau. Esther aurait pu demander la même chose. Elle aurait pu dire, écoute, tu vois la tête d'Aman, là? Je la verrais bien sur le buffet, là. Mais juste la tête. Non, elle n'a pas demandé ça. Et elle n'a pas demandé ça, pourquoi? Parce qu'elle est animée d'un autre esprit qu'Hérodias. Elle est animée, à mon sens, par le Saint-Esprit. Pourquoi je dis cela? Parce qu'elle va demander quelque chose d'incompréhensible. Imaginez la scène. Elle a tremblé pour se présenter devant le roi malgré l'interdiction. Elle ose accueillir le roi et le bourreau de son peuple à table. Et quand le roi lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle dit « Revenez demain. » Franchement, elle a le sens de la mise en scène. Hein. Normalement, c'est à ce moment-là que dans les films, il y a la pub. Vous savez, là, vous êtes sûr de revenir. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Qu'est-ce que ça va changer? Mais franchement, qu'est-ce que ça va changer? Il a demandé, un jour de plus, qu'est-ce que ça va changer? Et c'est cela qui est incroyable. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas dire une chose pareille autrement que par le Saint-Esprit. C'est que Dieu va placer pendant la nuit quelques pièces supplémentaires sur l'échiquier. Tout ça pour que sa gloire éclate magistralement. Il ne veut pas une petite victoire, Dieu. Il veut un triomphe, quelque chose de magistral, quelque chose d'éclatant, quelque chose qui va laisser tout le monde « Oh, Baba !» Il veut quelque chose de sublime. Ce soir-là, après le premier festin, Aman sort, ça c'est verset 9, Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content, mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait, j'aime l'expression, devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Là j'aime ce passage-là, c'est, les jeunes diraient, il a pris le melon. Il a pris la grosse tête. Il est gonflé, vous savez, comme la grenouille de la fontaine là. Il est prêt à exploser. Il rentre. Il voit Mardochée. Tout le monde se prosterne à nouveau. Et lui, il rentre chez lui, rassemble les amis, sa femme. Il dit, écoutez. Voilà ma vie. J'ai tout. Une maison à Saint-Trope, une villa à Courchevel, j'ai tout. Je suis le seul à manger avec le roi et la reine. Voilà. J'ai des enfants, j'ai une richesse. Voilà. J'ai tout. Mais il y a un gars. Il y a un gars qui refuse de se prosterner devant moi. Ça le met hors de lui, ça lui gâche toute sa vie, il ne peut plus supporter ça un jour de plus. Et il s'approche de sa femme, Zeresh, tu dis, écoute, c'est simple, t'es le numéro 2 du pays, de l'Empire, tu fais dresser cette nuit une potence, et demain, première heure, on fait suspendre Mardochée, puis que ça va. Après, tu vas au repas, tu seras décontracté. deuxième chose qui se passe, au début du chapitre 6, verset 1, « Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques, on les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. » Et là, on lui rappelle cette histoire pendant qu'il est insomniaque. Il dort toujours très bien. Mais cette nuit-là, juste cette nuit-là, il ne dort pas. Et on lui rappelle l'histoire de Mardochée qui n'a jamais été récompensé. Et donc, si vous voulez connaître la suite, il faudra revenir dimanche prochain. C'est pour cela que je dis simplement que le Saint-Esprit, lui-même a donné cette réponse à Esther. C'est-à-dire que l'instant où on s'identifie au peuple de Dieu comme chrétien, le Saint-Esprit agite en nous. En Matthieu, chapitre 10, verset 18, il est dit « Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » C'est extraordinaire. L'instant où on s'identifie au Seigneur, l'Esprit Saint prend les commandes et on peut vraiment s'attendre au Seigneur. Vous traversez peut-être une crise terrible. Vous avez l'impression que tout est gâché peut-être. Vous ne voyez pas d'issue. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu, c'est-à-dire le vrai chrétien, quand il traverse une crise, il se distingue par cela. Il s'approche de son Dieu. Il tombe sur ses genoux. Il plaide. Et puis, agissez en croyant. Faites ce que vous devez faire. En tant que croyant, ce que la Bible vous demande de faire, ce que l'Esprit Saint dans votre cœur plaide pour que vous fassiez. Faites ce que Jésus aurait fait s'il était dans votre situation, à votre place. Faites-le comme Esther a fait ce que Jésus a fait pour nous. Il a mis en jeu sa vie, elle a mis en jeu sa vie pour sauver le peuple. Et puis, attendez-vous à Dieu. Mais simplement faites-le dans cet ordre-là. D'abord, revenez à Dieu. Agissez en chrétien, en croyant. Et puis attendez-vous à lui. La fin de l'histoire, je vous la livre très brièvement. Ça, c'est un teaser, je crois. Mardochée est honoré par celui-là même qui veut sa mort. La reine Esther est entendue par son mari. Aman se balance à la potence qu'il a dressée pour son ennemi. Israël est autorisé à se défendre contre toutes les attaques, de sorte que l'édit irrévocable perd tout son effet. Et Mardochée devient numéro 2 du pays. Et Dieu est glorifié merveilleusement. Alors, peut-être vous traversez une crise terrible. Mais l'issue finale que vous ne connaissez pas aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui est capable de faire éclater sa gloire comme cela.